E-radio, plongée dans les océans. Sakina Ayata.
Aujourd'hui, nous retrouvons Sakina Dorothée Ayata, maîtresse de conférence en écologie marine à Sorbonne Université, pour sa chronique Plongée dans les océans. Bonjour Sakina.
Bonjour Cécile.
Sakina, la semaine passée, vous nous avez expliqué ce qu'était le séquençage à haut débit. Cette semaine, vous allez nous raconter comment on peut étudier les écosystèmes marins grâce à cette technique.
Oui, en effet. Si vous vous souvenez, en séquençant l'ensemble des molécules d'ADN présentes dans un échantillon d'eau, on obtient la liste des gènes, et donc on peut connaître les gènes qui peuvent être utilisés potentiellement par les organismes. C'est la métagénomique. On peut également cibler un fragment particulier de l'ADN et ainsi déterminer la liste des espèces qui sont présentes. C'est le métabarcoding. Et enfin, en séquençant l'ensemble des molécules d'ARN de l'échantillon, on obtient la liste des gènes qui sont exprimés. C'est la métatranscriptomique.
Et à quoi ça sert de lister tous les gènes qui sont présents dans un échantillon d'eau de mer?
Eh bien, ça permet de mieux connaître les communautés marines, en particulier microbiennes. En effet, on peut ensuite comparer la liste des gènes obtenus à des séquences de gènes déjà connues et répertoriées dans des bases de données, et ainsi retrouver des gènes connus et donc savoir à quoi ils servent.
Et que se passe-t-il si ces gènes ne sont pas connus?
Eh bien, s'ils ne sont pas connus, c'est-à-dire qu'ils n'apparaissent pas dans les bases de données dont on dispose, ceci signifie qu'on a potentiellement découvert un nouveau gène. Reste ensuite à savoir à quoi il sert et à qui il appartient.
Et est-ce que ça arrive souvent de rencontrer des gènes inconnus quand on séquence les molécules d'ADN présentes dans les océans?
Oui, car finalement, on connaît très mal les micro-organismes marins, en particulier planctoniques. Dans le plancton, beaucoup d'organismes eucaryotes unicellulaires, aussi appelés protistes, ne peuvent pas être isolés et cultivés en laboratoire. On n'a donc jusqu'ici jamais pu décrire l'ensemble de leurs gènes, appelés génomes. Grâce à ces nouvelles méthodes de séquençage, on a dorénavant accès à tout un pan de la biodiversité marine.
J'imagine que c'est la même chose pour les molécules d'ARN, parce que beaucoup sont inconnues.
Oui, en effet, mais grâce à ces méthodes, on a tout de même pu recenser plus de 116 millions de gènes planctoniques. Parmi ces gènes, près de la moitié ne ressemble à rien de connu. Il y a donc un énorme potentiel pour découvrir de nouvelles molécules, mais aussi pour mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes océaniques. Mais il existe aussi des techniques de bioinformatique qui permettent, en comparant les séquences obtenues dans différents échantillons et en identifiant celles qui ont les mêmes distributions spatiales et temporelles, d'étudier les communautés marines même lorsque les gènes n'ont jamais été décrits auparavant. On peut par exemple identifier des gènes dont l'expression est corrélée à des conditions environnementales particulières, comme de fortes températures, une forte turbulence ou une grande profondeur.
Et en ciblant des fragments particuliers d'ADN grâce au métabarcoding, à quoi ça sert?
Eh bien, comme on peut avoir une idée de la liste des organismes qui sont présents, sans même les avoir identifiés visuellement, cette technique, aussi appelée étude de l'ADN environnementale, permet de faire du biomonitoring et donc de suivre le devenir des écosystèmes. On peut ainsi identifier des changements d'espèces ou de communautés en réponse à des pollutions, ou encore détecter l'arrivée de nouvelles espèces exotiques potentiellement invasives, ou même déceler très rapidement l'arrivée d'espèces toxiques.
Eh bien, merci Sakina pour toutes ces informations. À la semaine prochaine.
Merci Cécile, à bientôt.